Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Le train est sur les rails pour une autre émission d'une heure à peu contenir des infos et on vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à bord, mesdames, messieurs. Votre maître de train, c'est moi en quelque sorte parce que je suis à la console, mais il occupe une place tout aussi importante. Sébastien Boucher est là avec moi. Salut Sébastien.
Salut Simon. Salut à tous.
Ça va bien?
Très bien, à l'approche du temps des fêtes, oui.
Oui. Alors, moi, je suis derrière la console, c'est moi qui s'occupe des boutons. Et puis, Sébastien, pour faire l'analogie un peu avec les trains, il faut passer à travers les allées, puis il faut distribuer les snacks, puis les boissons gazeuses, les choses comme celles-là. On a préparé des sujets très intéressants encore cette semaine, Sébastien. On va parler tantôt, entre autres choses. Tu nous avais annoncé ça, c'est quand? C'est la semaine passée ou l'autre semaine d'avant? Les cure-dents, je pense, que tu nous avais dit que tu allais faire.
Oui, la semaine dernière, ouais, je disais, parce qu'on avait parlé, on avait rajouté un peu sur les brevets, puis je me disais, les cure-dents, ça vaut la peine d'aller voir l'histoire des cure-dents. Ça a quand même toute une histoire, ces petits bâtons de bois.
OK. Moi, je vais vous parler de Temu. Est-ce que tu connais le site Temu, la plateforme de vente en ligne Temu?
Oui, ça, j'ai déjà vu.
Bon, alors, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Temu, ça vaut-tu la peine d'acheter là-dessus? D'où viennent les produits? C'est quoi le business model de Temu? Hein? Comment ça fonctionne? Comment ils font pour vendre aussi peu cher? Je vais vous expliquer ça tantôt. Toi, tu auras également pour sujet les jeux de hasard.
Ben oui, les fameuses loteries et tout ça. Ça crée une dépendance, ça aussi, hein, à l'approche du temps des fêtes. On dirait que je me penche sur les dépendances. On avait parlé de l'alcool un peu. Non, mais c'est parce que je vais aussi expliquer le fonctionnement de ces affaires-là. Puis, j'ai lu un article assez intéressant de pourquoi, depuis que ça a été pris par les gouvernements, parce qu'avant, c'était des machines illégales, pourquoi ça crée une aussi grande dépendance? J'ai vraiment la réponse.
Et puis, on va clore avec, entre autres choses, le tarot de Marseille.
Ah ben oui, ah ben ça c'est une autre affaire qui date d'il y a longtemps et j'aime retrouver les origines de ces jeux qu'on peut retrouver comme on avait fait le jeu de cartes traditionnel. Tarot de Marseille est peut-être un petit peu moins ancien parce que ça viendrait du jeu de cartes, mais vraiment intéressant et on va faire un petit cours aussi sur la pratique divinatoire, ce qu'il y a à savoir là-dessus.
Moi, d'ici la fin de l'émission, je vous parle de traditions insolites pour célébrer Noël à travers le monde parce que Noël approche évidemment, mais d'abord, oui. On va lancer l'émission avec un sujet... J'oserais dire universel parce que nous en avons tous, en principe, là, je veux dire, des yeux. Et tu vas nous parler de la couleur des yeux.
Oui, puis ça, c'est parce que quand j'étais au cégep, mais c'est il y a longtemps, là, j'étais en biologie, on apprenait beaucoup de choses sur la génétique des yeux. Tu sais, pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut avoir les yeux bleus si ses deux parents ont les yeux bruns? Tu sais, des choses comme ça. Puis ça a changé comme... Là, je me suis rendu compte que ce qu'on avait appris il y a 20 ans n'est pas tout à fait à jour. Et puis, on en a découvert plein de choses sur la génétique des yeux. Donc, je voulais faire un petit survol avec vous pour bien comprendre comment ça fonctionne, cette affaire, avoir les yeux bleus, les yeux bruns, les gènes récessifs dominants. Alors, oui, je voulais parler de ça aujourd'hui. Toi, tes yeux sont de quelle couleur, Simon?
C'est des yeux pairs.
Pairs? Ah ah! Moi, j'ai les yeux bleus.
OK.
Ouais. Bon, ben, on fait partie pas les plus répandus, hein, mettons, mais quand même, la couleur des yeux, c'est vraiment un sujet fascinant, je trouve. Ben, ça combine génétique, biologie, puis un petit soupçon de mystère.
Oui, c'est ça.
On peut jamais être trop sûr. Mais c'est grandement influencé par l'hérédité. Ça, tu t'en doutes bien, hein,
oui.
la couleur des yeux.
Absolument.
Principalement, c'est déterminé par la quantité du type de pigments qui sont présents dans l'iris. Puis les deux principaux pigments sont la mélanine, c'est elle qui donne les teintes brunes, et l'hypochrome. Qui a une teinte jaune, en fait. Puis la combinaison puis la distribution de ces pigments-là, ça produit des effets de couleur de yeux qu'on voit. Alors, il y a brun, bleu, vert, gris, c'est les variations intermédiaires. Et traditionnellement, là, les scientifiques pensaient que la couleur des yeux était contrôlée par un seul gène avec des allèles dominants récessifs. Et moi, c'est ça que j'avais appris. Donc, on me disait, tu sais, vraiment, deux personnes avec les yeux bleus sont obligées d'avoir un enfant avec les yeux bleus. Okay. Ben là, il y a des petites variantes. Là. Ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver des petites variantes. Et puis, le modèle simple qu'on avait avant, ça disait que les yeux bruns étaient dominants sur les yeux bleus, mais la recherche moderne a révélé que la réalité est pas mal plus complexe que ce qu'on pensait il y a quelques décennies. Alors, les individus qui ont une forte concentration de mélanine dans l'iris, ben, ils ont les yeux bruns. Alors, on le dit, là, la mélanine, c'est celle qui fait la couleur foncée. Une faible concentration de mélanine, ben, c'est ça qui fait les yeux bleus. Il n'y a pas quelque chose de plus qui s'ajoute là, pour nous faire les yeux bleus, c'est la faible concentration de mélanine. Les yeux verts, hein, eux, c'est une quantité intermédiaire de mélanine. Puis les yeux verts, c'est les plus rares. Mais les yeux gris et noisette, on va dire, toi, père, ça doit être comme gris considéré ou pratiquement?
C'est bleu-vert, là. Ça tire un peu entre les deux, là, si on veut.
OK. Bon, c'est différentes combinaisons. Alors, on va regarder ça. Deux parents, par exemple, là, qui ont les yeux bruns, est-ce que, d'après toi, ils peuvent avoir un enfant aux yeux bleus?
Honnêtement, je dirais que non, probablement pas.
Mais oui. Puis ça arrive souvent. Moi, mes deux parents avaient les yeux bruns, puis j'ai les yeux bleus et ma sœur aussi. On avait quand même plusieurs chances. C'est parce que, tu sais, souvent les gènes s'agroupent par deux.
OK.
Ben, c'est tout le temps même, c'est deux. Puis, si mettons, on dit qu'il y a bleu et brun, ben, quelqu'un qui a brun-brun avec un autre qui a brun-brun, ça va donner brun. On s'entend. Mais quelqu'un qui a brun-bleu avec l'autre qui a brun-bleu, les deux ont les yeux bruns, mais chacun a le gène récessif bleu. Et là, ça se pourrait que les deux bleus s'accordent ensemble.
Okay.
Et s'il y a absence du gène brun, bien là, ça donne des yeux bleus. Donc, il y a quand même un bon 50% de chance, souvent, avec deux personnes aux yeux bruns, d'avoir des yeux bleus.
Je vais quand même te faire une confidence, c'est que mes cours de bio sont quand même assez loin dans ma tête. C'est quelque chose qui m'échappe un peu.
Ouais, ben c'est ça. Moi aussi, il était loin. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, je pensais à la couleur des yeux, puis je pensais me fier à ce que je savais déjà. Mais là, en faisant des recherches, j'ai fait « Ouh là là, OK, non ». Parce que là, ça ajoute une couche supplémentaire de variabilité, les recombinaisons génétiques. En tout cas, parents aux yeux bruns, ils peuvent avoir des enfants aux yeux bruns, verts ou bleus. Mais dans plus de 70% des cas, ils transmettent les yeux bruns à leur enfant, leur pigmentation. Un parent aux yeux bruns avec un parent aux yeux bleus, les enfants vont avoir plus de chances d'avoir les yeux bruns, mais pourraient avoir les yeux bleus ou verts aussi. Et deux parents aux yeux bleus, ben là, c'est là que c'est presque certain qu'ils vont avoir des enfants aux yeux bleus, mais il y a des mutations rares puis des combinaisons génétiques spécifiques qui pourraient produire des yeux verts pour deux parents aux yeux bleus.
Oui.
Et puis, la science continue d'explorer ça, ces mécanismes-là. Chaque jour, on trouve des nouvelles affaires. Il y a des couches de complexité et de beauté, même, dans la manière dont nos traits sont hérités ou exprimés. Puis, un sujet complexe qui est encore à l'étude parce qu'il y a plus de 150 gènes qui influencent la pigmentation des yeux. On est parti de 1, à un moment donné, on disait 16, puis là, on dit 150. Ça influence beaucoup. Et sans surprise, ben, le brun, c'est la couleur la plus commune. Il y a 80% de la population qui a les yeux marron ou noisette sur Terre. Les yeux bleus, aurais-tu une idée de la proportion
et peut-être un
dans le monde?
10%, je veux dire 10% maintenant.
Bravo, direct dessus!
Ah ouais, OK.
Une chance sur 10, ouais. Il y a une personne sur 10 qui a les yeux bleus sur la Terre. Puis les yeux bleus ou gris-bleus, ça c'est 8 à 10% des individus d'Occident. Et un fait étonnant, c'est que l'origine de la teinte serait transmise par un ancêtre qui a vécu il y a entre 6000 et 10 000 ans avant notre ère. Puis les yeux pères, ça c'est comme les tiens, eh bien, c'est une nuance de yeux bleus. Donc, tu fais vraiment partie du même pourcentage là, que les gens qui ont les yeux bleus.
Moi, c'est une espèce de combinaison de bleu et vert, là, ça tire un peu. Mais c'est pas tout le monde, il me semble en tout cas, je connais d'autres personnes qui ont les yeux pairs, et puis on n'a pas tous nécessairement les mêmes nuances dans les yeux.
Non. Ben,
mais les yeux, de toute façon, en partant, il n'y en a pas un qui a les yeux pareils, là, t'sais.
C'est sûr, avec les petits motifs qu'on peut retrouver dans l'iris et tout ça. Moi, j'ai comme des petites montagnes blanches là, dans mes yeux bleus, ça fait quand même bien. Il y a du monde que c'est plus mât.
Ou harmonieux, là, si on veut, là, homogène, là, si on veut,
Ouais. Mais tes yeux pairs sont moins rares que les yeux verts. Les yeux verts, c'est vraiment le plus rare. Est-ce que tu aurais une idée de pourcentage de chance d'avoir les yeux
verts? De l'ordre de 3 à 4 peut-être, je ne sais pas.
2!
Ah oui, 2 % hein?
Okay. 2 % seulement sur la Terre, c'est la couleur la plus rare. C'est ça, au monde, c'est 2 % de prévalence. Puis, c'est plus fréquent en Europe et ça l'est aussi un peu plus fréquent dans quelques civilisations d'Asie et d'Afrique, les yeux verts. Puis, les personnes aux yeux verts ou bleus sont généralement plus sensibles à la luminosité que les yeux foncés parce qu'on a moins de mélanine et le pigment brun et la lumière s'infiltre donc plus facilement. On est plus réactif aux rayons UV aussi avec les yeux bleus. Et l'hétérochromie, ça d'avoir des yeux de couleurs différentes là, ou plusieurs couleurs dans le même œil, ça existe pas mal, mais c'est un phénomène, encore une fois, génétique qui explique ça. Alors, couleur des yeux, le vert est vraiment le plus rare. Et puis, ça se pourrait que deux parents aux yeux bleus aient des enfants avec les yeux bruns, mais là, les chances sont très, très faibles.
Merci, Sébastien, pour cette leçon de biologie qui m'a ramené quelques années, même plusieurs années en arrière. Il me reste 3-4 minutes pour vous parler des nouveaux wagons de Via Rail. Est-ce que tu prends le train de temps en temps?
Non, mais j'ai l'intention de le prendre éventuellement là, pour aller peut-être voir ma famille qui sont encore au Québec, là, dans le coin de Montréal. C'est rendu très, très loin. Alors, peut-être le train. J'ai pris l'avion une fois. J'essaierai le train à un moment donné.
Ben, après s'être attaqué au remplacement des trains du couloir entre Québec et Windsor, là, c'est au reste de ces parcours que Via Rail va s'attaquer parce qu'on va remplacer les trains qui parcourent les plus longs trajets à travers le pays. Ce ne sera pas chose faite en un claquement de doigts, là, je vous l'annonce, mm-hmm. là, parce que ça va prendre quand même à peu près une décennie environ avant que ces trains-là soient remplacés. Mais il y a quand même une phase préparatoire qui s'est mise en branle de façon officielle le 9 décembre dernier, alors qu'on a annoncé ce qu'on appelle les demandes de qualification. C'est quoi les demandes de qualification? Bien, c'est une façon de faire le tri entre les entreprises qui prétendent devenir fournisseurs de Via Rail. Donc, on veut s'assurer que les soumissionnaires aient une expertise, d'abord dans le domaine ferroviaire. Hein? On ne veut pas se ramasser avec des fabricants d'autobus scolaires qui vont soumissionner pour faire des wagons de train. Tu sais, c'est quand même pas pire. Oui, oui, on fait du transport roulant en plus. Oui, c'est quoi vous faites? On fait des autobus scolaires. Sorry, mais ça ne marchera pas. Tu sais. Alors, on demande donc qui est intéressé à un contrat avec Via Rail. Voici ce qu'on a besoin. Est-ce que vous êtes en mesure de fournir tel wagon et telle locomotive? Parce que on parle quand même d'un gros contrat là, qui s'en vient. C'est 42 locomotives et 313 wagons. C'est un contrat d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Juste pour faire des comparaisons, depuis 2018 environ, je vous l'ai dit, le gouvernement fédéral a investi pas mal d'argent pour remplacer la flotte qui circule essentiellement entre le corridor entre Québec et Windsor. C'est le corridor le plus fréquenté, on s'entend, parce que la grande concentration de la population canadienne est située le long de ce corridor-là.
Windsor, en Ontario.
Oui, Windsor, Ontario, effectivement. Alors, Québec-Toronto, c'est pas mal le plus fréquenté, là, on s'entend. Alors, mm-hmm. c'est 3 milliards de dollars qu'on a mis depuis 2018 juste pour ce corridor-là. Alors, imaginez bien que pour remplacer toute la flotte d'ailleurs au pays, ça va coûter quand même une bonne beurrée. Et faites à noter, la grande majorité des trains à remplacer dans ce cas-ci date d'aussi loin que... Tu as une idée de quand ça date certains trains qui circulent sur les...
Pas. Ouais. Est-ce qu'on garde ça longtemps, une centaine d'années? Est-ce que c'est possible?
Ben là, on n'est pas loin de ça, là, parce qu'on parle du milieu des années 40 okay. jusqu'au milieu des années 50. Donc, c'est des trains qui ont, dans certains cas, 70 ans-ish, là, ou même 80 presque dans certains cas. Il s'agit essentiellement des trains qui relient Halifax à Québec, dans l'est du pays, et l'autre bord, finalement, du corridor dont je vous parlais tantôt, c'est-à-dire entre Toronto et Vancouver dans l'ouest. Donc, ce sont essentiellement ces trains-là qu'on va remplacer, mais il y en a d'autres ailleurs au pays, là, qui circulent dans l'axe nord-sud, par exemple. Je pense, entre autres, au train qui part de Montréal pour monter à Sainte-Terre au Québec. Lui, on va le remplacer également, ou enfin, on va mettre de nouveaux wagons, de nouvelles locomotives sur les rails. Processus qui pourrait prendre de 6 à 8 ans pour les appels d'offres, les devis et la construction et tout le reste, c'est tout petit fruity, comme on dit, et pour un remplacement qui devrait se faire quelque part comme au milieu de la décennie 2030, on s'attend qu'à peu près vers 2035 environ, on devrait voir des nouveaux trains sur les rails de Via Rail. Ça clôt pour notre premier sujet, notre premier bloc de l'émission, puis on revient dans un instant où on va vous parler de cure-dents, c'est ça, hein, Sébastien?
L'histoire des cure-dents, mesdames et messieurs.
Peu contenir des infos.
Je vous ai promis dans le premier bloc que j'allais vous parler de Timou, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Timou sans jamais oser le demander, à moins d'avoir vécu dans une grotte au cours des dernières années et puis de vous être tenu loin d'Internet. Vous avez probablement déjà lu et entendu parler de Timou. Tu as déjà entendu parler de Timou?
Oui, mais j'ai rien acheté.
Moi non plus. On voit des annonces partout sur le web, on en voit à la télé. C'est quoi Timou? Pourquoi ça existe? Quand est-ce que ça a été fondé? Est-ce que ça vaut la peine d'acheter sur Timou, la grande question? Bien, Timou, c'est une plateforme de commerce électronique qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Et c'est ni plus ni moins. As-tu déjà été dans un marché aux puces, Sébastien?
Absolument.
Marché aux puces, mais attention, pas où on vend des vieilleries là, ou des antiquités, mais tu sais, marché aux puces où il y a des peddlers là, qui vendent des objets, n'importe quelle sorte, des ceintures, de l'électronique, des choses comme ça. Ben, oui. Timou, c'est un peu un marché aux puces numérique dans une certaine mesure où on trouve du neuf à des prix évidemment très attractifs. Vous pensez que ça fait longtemps, Timou, que ça existe? Comment ça fait de temps, d'après toi, que ça existe?
Ah, ça, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai entendu parler de ça il y a pas si longtemps.
Non, c'est assez récent. 2 ans, 2022 seulement, ouais, que ça existe. Puis on dirait que c'est comme si ça faisait 10 ans que ça existe, tellement on entend parler. C'est un site qui appartient à PDD Holdings. C'est une société chinoise qui est également propriétaire de Pinduoduo. Et Pinduoduo, en passant, c'est un peu un Temu, mais pour les Chinois. C'est absolument la même affaire, mais eux autres, ils ont leur plateforme.
Comme Weibo en Chine, là, qui remplace un peu nos Facebook.
Bien, c'est ça, exactement. Donc, ils se font des plateformes pour eux autres, puis nous autres, ils nous poussent une autre affaire. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Alors, pourquoi c'est si populaire, Temu? Bien, il y a une raison, les prix sont bas. Point. Mm-hmm. Ça, c'est la principale raison. Oui, évidemment, on voit beaucoup de publicité. Vous allez me dire, on en voit partout du Temu. Ah, oui, c'est vrai, mais la raison pour laquelle le monde achète là-dessus, c'est pas parce qu'ils voient de la pub nécessairement, c'est parce qu'ils vont faire un tour puis ils trouvent des gadgets, des patentes qui sont pas chères. Alors ça, c'est la principale raison. On trouve de tout, vêtements, gadgets, décorations, articles de cuisine, beau, souvent pas très bon, je vous l'avoue, et surtout vraiment pas cher, là. Et c'est quoi le modèle économique de Temu? Pourquoi ça coûte si peu cher? C'est que contrairement à Amazon, Temu n'a pas d'entrepôt un petit peu partout. Le principe de Temu, c'est que c'est du business to consumer. Ça veut dire que les entreprises, les manufacturiers vendent directement aux consommateurs. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de grossiste et tout ça, à part évidemment Temu là, qui prête ou en fait qui fournit sa plateforme contre une contribution. D'où viennent la grande majorité des produits? Ce sont des fabricants peu connus, souvent localisés en Asie. Ça peut être une façon, Temu, de trouver des articles originaux qu'on ne trouvera pas ailleurs. Par contre, ça pose de sérieuses questions, évidemment, quant à la qualité. Si c'est beau, mais que c'est pas forcément très bon et pas cher, attendez-vous pas à avoir du Nike, là, puis d'avoir du Adidas, puis des affaires comme ça. Hein? On s'entend, là. Et comment se passe la livraison? Parce qu'il y a peut-être des gens qui, à l'approche de Noël, se demandent, ça vaut-tu la peine de commander sur Temu puis avoir mes cadeaux pour Noël? Je vais vous le dire, là, c'est long. C'est long, c'est même parfois interminable parce que ça part de Chine. Ça voyage souvent par les services des postes et des choses comme ça, donc c'est très, très long. Et comme on achète directement des manufacturiers, ben la chaîne de commande est souvent assez prolongée. Les données des utilisateurs, ça, c'est une autre source de questionnement. Est-ce que c'est mieux sur Temu? Est-ce que c'est pire? Bon, c'est difficile à dire. Quand vous achetez en ligne, de toute façon, en partant, il faut que vous vous attendiez à échanger vos données, hein, évidemment, à un vendeur. La seule façon à peu près de plus donner ces données là, à quelque part en 2024, c'est à peu près de partir dans un magasin au coin de la rue puis d'acheter avec du cash.
C'est vrai. C'est ça. On est rendu là.
Parce que sinon, c'est vous allez donner des données partout. Les risques de fraude sont assez grands, je vous avertis. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, vous vendez ou enfin vous achetez à des commerces souvent douteux. Et donc, c'est pas Walmart. Hein? Walmart, t'achètes, tu quelque chose, ça fait pas. Tu t'en vas chez Walmart, tu demandes un remboursement, ça marche comme ça. Et c'est essentiel, je vous dirais en conclusion, de vérifier les avis d'autres clients avant de passer la commande. Méfiez-vous, si les offres sont trop belles pour être vraies, des grosses chances que ça soit pas vrai. En résumé, et je vais être clair avec ça, est-ce que ça vaut la peine d'acheter sur Temu? Bien, ça peut être intéressant à première vue si ça vous tente d'acheter, comme je le disais tantôt, des produits beau, pas forcément très bon, mais pas très cher. Et soyez conscient des spécificités que vous avez besoin. Vous avez besoin d'un T-shirt X-large, par exemple. Ben, vous allez peut-être le trouver là, mais attendez-vous pas qu'il va durer 2 ans. Là, maintenant.
Il coûtera pas cher, mais ça peut aussi prendre du temps à le recevoir.
Ça peut être prendre du temps à le recevoir, puis quand vous allez l'avoir lavé 2-3 fois, ben vous allez voir les trous dedans. Tu sais, c'est un peu
C'est pas une grosse publicité que tu fais pour Temu aujourd'hui, Simon.
C'est pas une grosse publicité que je fais pour Temu, puis s'il y a des commerçants qui pensaient, ou des commerçants locaux qui pensaient que j'allais les encourager, ou j'allais encourager les gens à acheter là, non. Va à ton magasin au coin de la rue, finalement. Si tu trouves des T-shirts, là, c'est quoi? Tu as 8 minutes à peu près pour nous parler des cure-dents, mon très cher ami.
L'histoire des cure-dents en 8 minutes. Attention. Hey, les cure-dents, là, ça ne date pas d'hier. Hein? Les chercheurs ont décelé des indices qui montrent que les Néandertaliens et les premiers Homo sapiens étaient des fervents adeptes de cure-dents. Oui. Alors, ils ont étudié des ossements préhistoriques et ils ont déduit que nos ancêtres utilisaient régulièrement une sorte d'outil pour garder leurs dents propres. Donc, ça viendrait de là, en fait, les premiers cure-dents. Et ils ont fait fureur dans plein de civilisations antiques, les cure-dents. Il y a un historien de la Grèce antique qui s'appelle Agathocle, qui dit que le tyran de Syracuse aurait trouvé la mort en utilisant un cure-dent enduit de poison. C'est comme ça qu'ils auraient été tués. Et puis, cure-dents de l'époque ont survécu au passage du temps. Ils peuvent encore être admirés aujourd'hui. Il y en a qu'on peut voir. Il y a des cure-dents de luxe qui étaient souvent fabriqués avec des matériaux plus durables comme de l'os ou des métaux précieux. Alors, il y a vraiment eu des cure-dents là, pour les grands riches là, de l'époque. Pendant le Moyen Âge, les nobles étalaient même leur opulence avec des cure-dents en or ou en argent qui étaient rangés tout beaux là, dans des étuis. Alors, tu sais, ça a fait fureur, surtout au Moyen-Âge. Puis l'aristocratie européenne, il y a un cure-dent de luxe qui date du 16e siècle qui est exposé au British Museum. Puis, il est en or, incrusté de perles. Et puis, la tendance s'est poursuivie jusqu'au 19e siècle parce que la duchesse de Parme a reçu une douzaine de cure-dents de grande valeur en guise de dot quand elle s'est mariée. Alors, ouais, des cure-dents, c'est populaire. Tu t'attendais pas à ça autant, hein?
J'aurais 20 jokes à faire, mais on n'aura pas le temps.
OK. Pas le temps de faire des blagues, Simon. J'ai 8 minutes pour te donner l'histoire des cure-dents. À un moment donné de l'histoire, il y a des femmes du Portugal qui ont innové en matière de cure-dents. Au lieu de les utiliser pour l'hygiène dentaire, elles ont fabriqué des cure-dents jetables spécialement conçus pour piquer les friandises collantes, des petits bonbons pour ne pas se coller les doigts.
Bonne idée. Oui,
puis ça a fait fureur aussi. Puis comme par hasard, la production de cure-dents au Portugal a connu un boom quand c'est arrivé cette affaire-là. Puis là, on a utilisé les cure-dents vraiment pour piquer les petits bonbons collants. Ils ont rencontré un gros succès, se sont répandus dans toute l'Europe et à travers les Amériques, surtout à cause de cette utilisation qu'on y a donnée, de prendre des petites choses avec un cure-dent pour manger sans toucher avec les doigts.
Et pas pire aussi pour les petites saucisses enroulées dans le bacon.
Exact, c'est ça, là. Ça enlève le petit gras sur les doigts ou les saletés exact. Ou le collant. Alors, il y a un entrepreneur américain, Charles Forster, qui pendant ses voyages, lui, a été stupéfait par la qualité des cure-dents qu'il a trouvé un peu partout dans le monde. Alors, il en a été inspiré. Puis, M. Forster s'est attelé à la construction d'une machine capable de produire des millions et des millions de cure-dents en une seule journée. Il était déterminé à inonder l'Amérique avec des cure-dents. Puis, quand Forster a dévoilé sa machine à cure-dents au peuple américain, je pense que l'Amérique n'était pas prête. On n'a pas voulu rien savoir. Les gens voulaient se les faire eux-mêmes. T'sais, ils se disaient, l'idée de dépenser de l'argent pour quelque chose qui pouvait facilement se faire, un petit cure-dent, c'était pas intéressant. Forster savait qu'il avait besoin de créer la demande. Alors, pas fou, le monsieur Forster. Il a décidé de mettre en œuvre tout un arsenal de tactiques de marketing. Attention, il a engagé du monde pour se faire passer pour des clients qui voulaient des cure-dents partout ce qui allait dans les restaurants, dans les magasins. Ça a provoqué un besoin, hein, un peu irraisonné, mais d'achat de cure-dents pour les boutiques parce qu'ils se faisaient demander par des clients qui en demandaient. Et ceux qui étaient sans méfiance, là, les boutiques, se sont fait un peu avoir puis ils se sont mis à acheter des cure-dents pour les clients, mais ça, c'était tout arrangé. Puis il a même débauché, M. Forster, certains des plus brillants esprits de l'université d'Harvard, puis il leur a confié une mission secrète. Chaque fois qu'ils mangeaient au restaurant, ils devaient demander des cure-dents. Et puis là, ce qui est arrivé, comme par magie, la pratique s'est répandue, puis les petits bâtons pointus sont devenus un accessoire indispensable. Et puis ça partirait de M. Forster. Puis au fil du temps, l'empire du cure-dent a pris des proportions assez considérables. À la fin du 19e siècle, c'est des milliards de cure-dents qui étaient produits chaque année. Et seulement dans l'année 1887, le nombre de cure-dents a atteint le chiffre de 5 milliards. Et Charles Forster est à l'origine de la moitié de ces cure-dents-là. Donc, lui-même, tout seul, en avait fait 2,5 milliards à peu près en 1887. Puis, il y a une usine qui a vu le jour dans le Maine, qui a défié toutes les limites en matière de production. Elle débitait des cure-dents par milliards. Et une entreprise ici au Canada de Toronto s'est donnée pour mission de révolutionner le concept. On a fabriqué des cure-dents à partir de bouleau blanc et on les a proposés en 6 saveurs délicieuses. Un flacon élancé, fermé par un bouchon de liège, estampillé au nom de la marque. Et c'est pas tout. Chaque cure-dent a une extrémité carbonisée, puis la compagnie propose même des étuis en cuir très chic. Donc, on est dans les produits de luxe là, de cure-dent maintenant. Fait que ça vient d'il y a très, très, très loin, mais ce qui a rendu ça, là, les petits cure-dents en bois partout, c'est vraiment M. Charles Forster.
Hey, c'est pas des modus de farce. Il y a des gens qui vont donner ça comme cadeau de Noël. Ça se peut, hein?
Absolument. Absolument.
Des cure-dents aromatisés, c'est ça que tu disais?
Et puis dans un étui de luxe.
C'est assez incroyable quand on regarde.
Je ne sais pas si on a le temps d'autres utilisations qui ont été faites.
Absolument,
tu
as 3 minutes, vas-y.
Parce que si vous avez des cure-dents, vous ne savez pas quoi faire avec. Des clôtures en cure-dents, ça peut protéger les semis et les plantes des pluies délicates et des créatures rampantes. J'ai vu beaucoup de gens, tu plantes des petits cure-dents, les créatures ne peuvent pas monter par-dessus, ils se piquent dans le cure-dent au bout.
Ben oui.
Parce que c'est pointu, hein? Alors ça va bien. Et si une plante rencontre un petit accident aussi, eh bien un cure-dent, ça peut venir à la rescousse des branches cassées, des feuilles meurtries. Oui. Et puis, ce sont les nettoyeurs de précision par excellence. On peut utiliser des cure-dents vraiment là pour la saleté autour des bouchons de télécommande, des boutons de télécommande,
oui.
Les touches du téléphone, les petits interstices des jouets, là, vraiment, ça va bien. On peut aussi utiliser ça pour nettoyer les dépôts dans les brosses à cheveux, les pommeaux de douche. Alors, c'est bon d'avoir des cure-dents à la maison. Et puis, le test de cuisson, hein, le fameux test de cuisson, on prend un cure-dent, on le plante dans les gâteaux, les petits pains, les brownies qui sortent du four. S'il reste de la pâte sur le cure-dent, eh bien, le dessert n'est pas prêt. Alors, on peut utiliser ça pour toutes sortes de choses. Et puis, lorsqu'on constate qu'un petit flacon, par exemple, est bouché, on peut aussi utiliser un cure-dent pour transpercer le trou et faire déboucher le flacon. Et puis, voilà, on peut aussi saisir un cure-dent et percer l'obstacle là, quand il y a un petit quelque chose qui bloque un bout. Par exemple, un tube de pâte à dents ou les petits médicaments ou des choses plus petites des fois. Là, cure-dent est très pratique.
Et pour revenir à ton exemple de clôture dont tu parlais tantôt, ça peut même servir dans les modèles réduits. Si vous avez, par exemple, des trains, tu sais, des fois, tu as un train à modèle réduit et tu veux te faire un petit, comment je dirais ça, un petit village alentour ou encore un petit village de Noël. Tu peux te faire une petite clôture avec des cure-dents. Là, tu colles ça les uns les autres. Ça fait comme une petite clôture en bois. Ça fait quelque chose d'un peu...
Ça a l'air...
Pour les gens qui sont méticuleux, puis ben, t'es mieux peut-être de faire des affaires comme ça que de te gosser tes cure-dents. Tu sais, quand t'as dit ça tantôt, non, mais quel passe-temps! Les gens ont dit, on s'achètera pas des cure-dents, on va se faire nos propres cure-dents. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Je me gosse des cure-dents, sais-tu? J'ai besoin de cure-dents, on va me faire des cure-dents. Bon, chacun ses passe-temps, comme on dit. Hein? Alors, d'ici à la fin de l'émission, dans un moment, on va parler des jeux de hasard.
Oui.
On va parler également du tarot de Marseille. Et puis, si on a le temps, je vais vous parler de quelques-unes des traditions insolites pour célébrer Noël à travers le monde. Puis, si on n'a pas le temps dans l'émission cette semaine, on poussera ça la semaine prochaine, épisode. Restez avec nous autres. On s'arrête pour une pause. On revient dans un instant. Vous écoutez Peu contenir des infos.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On a décidé d'un commun accord que nous allions repousser à la semaine prochaine mes traditions insolites pour célébrer Noël à travers le monde. Parce qu'on va être à la dernière émission de l'année, hein, juste avant la fête de Noël. Et parce que c'est important qu'on parle des jeux de hasard. Tu as préparé un sujet sur les jeux de hasard, puis on va consacrer, Sébastien, le bloc entier à ça. Il y en a tellement des jeux de hasard, c'est tellement rendu populaire, on voit des pubs à la télévision et tout ça. On va donc démystifier un peu ce monde un peu spécial.
Un peu spécial, ça peut, faut que ça reste un jeu. On a vu tellement souvent la phrase « le jeu doit rester un jeu », ben en effet. Là. Et puis, j'ai fait, en faisant mes recherches, parce que ça m'a toujours intrigué, moi-même, j'ai déjà gagné beaucoup dans les fameuses loteries vidéo. Puis ça m'avait, je m'étais dit « ah, ben je vais garder l'argent, je n'aurais plus, tu sais, je vais profiter des gains que j'ai gagnés ». Mais après un certain temps, on a le goût de réessayer de se refaire la pile, tu sais, d'aller regagner. Puis c'est là que tranquillement, on repère, mais on en remet, on regagne, on remonte, on redescend. Puis les gens, ça crée une grande dépendance pour les gens qui ont souvent gagné gros. Et puis j'ai la raison là, pourquoi ça crée plus une dépendance maintenant que ça le faisait dans le temps que c'était illégal.
Okay.
Premièrement, les jeux de hasard, là, quelqu'un qui s'adonne à des jeux de hasard, toi, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es un parieur, Simon? Est-ce que ça peux poser la question?
Ça m'arrive de temps en temps, effectivement.
Considères-tu un parieur compulsif ou raisonnable?
Non, ben raisonnable. J'ai des limites. Je sais que si, mettons, je dis, je vais jouer un petit 10$, mettons, de loterie ou quelque chose dans le genre, puis un coup que c'est passé. Là, tu sais, j'ai pas le genre à aller mettre la carte de débit ou encore la carte de crédit dans le guichet en disant, là, tu sais. Faut se fixer. Je pense que la façon de fonctionner, c'est un peu de se fixer ses limites. Puis de se dire, tu sais, il ne faut pas que j'aille plus que ça. Là. C'est un peu comme fouler le frigidaire avec de la bière bien plein. Puis tant qu'il y en a de la froide, tu vas en boire. Là, tu sais. Tandis que si tu t'en mets 3-4 au frigidaire pour ta fin de semaine, tu arrives au dimanche soir, tu as fini. Tu sais, c'est un peu ça, je pense. Je ne sais pas si je me trompe. Là.
Bien, ce que tu dis, c'est très bon. Puis les gens qui sont capables de s'imposer une limite, c'est peut-être les gens qui réussissent le mieux là, à jouer et que ça demeure un jeu. Mais le problème avec la limite, c'est pour les gens qui gagnent gros et qui tout à coup le reperdent, là, ils veulent le refaire. Faire. Hein? Puis
c'est
à un moment donné, là, on va toucher à l'argent de la carte de débit ou de crédit. Mais un joueur qui s'adonne à des jeux de hasard, là, il s'expose toujours à la forte probabilité de perdre tout l'argent parié. Ça, il faut le garder en tête. Les quatre critères des jeux de hasard et d'argent, bien, premièrement, premier critère, le joueur mise de l'argent ou un objet de valeur quand il joue. Deuxième critère, la mise est irréversible. Troisième, le joueur peut soit gagner, soit perdre. Et quatrième critère, l'issue du jeu repose en totalité ou en partie sur le hasard. Parce qu'il y a des jeux où on peut faire, comme par exemple, si on regarde le poker, Texas Hold'em, c'est un jeu de hasard, mais avec aussi une partie de stratégie et de talent. Là. Quelques exemples de jeux de hasard et d'argent, bien, c'est sûr qu'il y a les loteries comme Machine à sous, il y a les Bingo Keno Paris Sportif, les appareils de loterie vidéo, et ça, c'est ceux qui créent la plus grande dépendance. Il y a aussi le poker, le blackjack, mais des jeux peuvent être pratiqués en ligne, et ça, ça augmente le risque de dépendance, hein, si on peut jouer à la maison, là, chose qu'on ne pouvait pas faire, moi, quand j'étais jeune. Puis je pense que quand j'étais jeune et que j'étais dans mon pic, là, mettons, de dépendance au jeu, là, et qu'il n'aurait pas fallu que j'aie ça. Avec une carte de crédit, là, puis que je peux jouer de chez moi là, sur Internet, je pense que je me serais mis dans le trouble.
Mais c'est rendu grave, hein, parce qu'on voit des publicités à la télévision dans pratiquement toutes les émissions. Ben, j'exagère un peu, là, mais il y a certaines chaînes là, où ce que tu en vois, c'est une affaire terrible. On regarde des fois Télétoon oui. le soir, là, tu vois des annonces de Play Audio, tu vois des annonces, puis là, je ne veux pas faire de pub, là, excusez-moi, là, mais Jackpot City et compagnie, là, on en voit comme on n'en a jamais vu. Mm-hmm. C'est une affaire effrayante. Ça me semble être pas loin d'être rendu un problème de société. Là. Puis j'exagère
oui,
à peine.
Ben c'est parce que c'est payant, mais pas pour ceux qui jouent. Pour exact. Ceux qui les inventent, là, ces machines-là, puis qui les commercialisent. Mais je voudrais te parler un petit peu des jeux de hasard qui ne reposent pas à 100% sur le hasard, pour okay. commencer. Okay. C'est possible que, je parlais du poker, on acquiert de l'expérience en jouant au poker, hein, puis on a un certain contrôle sur l'issue du jeu. Les résultats n'en sont pas moins en partie tributaires du hasard, mais les jeux de hasard et d'argent, ça se décline en trois catégories selon leur degré d'imprévisibilité. Okay. Il y a les jeux d'adresse pure, comme par exemple le billard ou les fléchettes, ça on écarte ça, parce que ça, c'est de l'adresse. Il n'y a pas de hasard. Mais, par exemple, catégorie 1, pour l'imprévisibilité, les jeux dont les résultats sont imprévisibles et incontrôlables complètement, comme loterie, bingo, keno, roulette, appareil de loterie vidéo. Hein? Ça, c'est catégorie 1. Les résultats de ces jeux-là dépendent complètement du hasard et les probabilités sont toujours en la défaveur de la personne qui joue. Hein? Jamais, jamais, ça va retourner tout l'argent. Si tu réinvestis tous tes profits, là, c'est impossible de faire de l'argent. Ici, l'adresse est aucunement sollicitée. Alors, c'est des jeux programmés pour assurer des profits à la compagnie hein, qui détient les jeux aux dépens des joueurs. La catégorie 2, les jeux dont les résultats sont tributaires du hasard et de quasi-adresse. Des jeux de quasi-adresse, on peut comme accumuler un peu d'informations au fil du temps et développer une certaine habileté, mais c'est pas garanti. On pense entre autres aux courses de chevaux. Okay. On se dit, là, je les ai vus, puis ce cheval-là a plus de chances de gagner. Les paris sportifs, quand quelqu'un connaît bien le sport. Mais tu sais, ça reste qu'on peut pas être certain là, de victoire des Canadiens de Montréal hier. On peut pas être certain.
C'est pas parce qu'un joueur a aligné 50 buts dans la saison puis que l'équipe aligne les victoires les unes à la suite des autres que forcément, la journée où on va parier, le gars va en scorer deux puis que l'équipe va gagner.
C'est ça. Exact. Ouais. Puis le blackjack rentrerait là-dedans aussi, la catégorie 2. Okay. Où on peut, tu sais, il y a du monde qui sont bons, ils comptent les cartes. Mais bon, si vous pariez dans des courses, les sports, vous utilisez l'information partielle dont vous disposez, c'est sûr. La performance passée d'un cheval, d'une équipe sportive, bon, et le blackjack, vous pouvez compter les cartes en tenant parfois compte de l'information partielle qu'on accumule au fil des cartes distribuées, mais c'est très difficile. Ouais. Puis, il y en a qui ont l'air, là, dans des films, on voit ça comme infaillible. Là. Je ne sais pas si des vrais pros peuvent vraiment être assurés de gagner. C'est possible. Il y a des gens qui sont assez génies dans le domaine, mais ça fait partie de la catégorie 2. Et la catégorie 3, c'est quand les résultats sont tributaires du hasard et de l'adresse. Là, l'adresse, c'est pas de la quasi-adresse. Il faut être bon dans ces jeux-là. Et là, on devient de meilleur en meilleur avec l'expérience, comme le Texas Hold'em, le fameux jeu de poker qui est rendu vraiment populaire. Là, vous observez le style de jeu prudent, par exemple, d'un adversaire. En certaines occasions, ben, on peut tirer profit de l'information. On peut aussi acquérir une part réelle de contrôle, espérer un gain potentiel. Alors, malgré ça, on est exposé au hasard pour la distribution des cartes, mais au poker, il y en a qui sont devenus vraiment solides et on ne peut plus considérer que c'est seulement hasard. Là, ils sont vraiment bons, ils perdent presque jamais. Ils réussissent à berner tout le monde. Mais peu importe la catégorie de jeux de hasard et d'argent, c'est important de garder en tête quelques faits. Là. Tous les jeux de hasard et d'argent comportent des risques de perte financière. Il ne faut pas se leurrer. C'est impossible pour quiconque de contrôler l'issue d'un jeu de hasard complètement. Et tous les jeux de hasard et d'argent sont faits pour apporter des profits à la compagnie. Rappelez-vous-en, la grande majorité des joueurs perdent de l'argent à long terme. Parce que même si moi, j'avais gagné quelques milliers de dollars à la loterie vidéo, en un coup, là, en quelques coups, tout dans la même heure, là, j'avais Puis j'ai fini, je crois, par tout reperdre sur le long terme. Puis là, je pense de même plus m'intéresser à ça du tout parce que je trouve que c'est dangereux. Et comme dans les jeux de hasard, les résultats des jeux de loterie vidéo sont déterminés de façon aléatoire. Chaque jeu et son résultat est déterminé de façon aléatoire par l'appareil, aussitôt qu'on pèse sur le piton. Alors, pour les loteries vidéo, là, celui-là, je le trouve assez intéressant parce que c'est lui qui crée la plus grande dépendance. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais quand on pèse sur le piton, là, le jeu a déjà décidé si tu gagnes ou perds. Alors, toute l'idée là, qu'on choisit un bonhomme, qu'on choisit une affaire, ça, c'est faux. Le jeu sait déjà combien il va payer à la fin de son spécial au moment que tu as pesé sur le piton pour faire tourner la roue, quand tu as fait spin ou tourner. Et même si ça peut prendre quelques secondes aussi avant que le résultat s'affiche, rien qu'on fait pendant ce temps-là, une incidence, hein, on voit des gens, des fois, ils frappent sur la machine ou ils frottent, quoi, puis ils se disent ça va les aider, mais le résultat est déjà déterminé quand tu as appuyé sur le piton. Donc, okay. Tout ce qu'on fait après ou qu'on choisit un jeu spécial, tout ça n'entre pas dans la donne parce que c'est déjà décidé.
Quand même que tu crieras après, puis tu diras « Ah oui, ah oui, ah oui, paye! »
Ça marchera pas.
Non, non, ou des fois, tu vois des gens, là, ça m'arrive de plus en plus rarement d'aller dans les bars, on s'en était parlé, là, rendu à notre âge, on sort de moins en moins, mais tu sais, tu regardes des fois, il y a du monde, puis ils sont là, puis ils vont mettre le manteau quasiment sur la machine pour aller aux toilettes, puis c'est pas drôle, là, je veux pas rire de ces gens-là, c'est pas ça, parce que tu les sens un peu dépendants ou un peu accro au jeu, puis là, ils mettent leur manteau, puis là, ils se disent « Je vais aller à la toilette, puis tu sais, comme sur une ligne, là, je sens qu'elle va payer, là, ça fait tellement d'argent que je mets dedans, puis elle l'a tellement pas payé que le prochain coup, c'est sûr que si quelqu'un embarque dessus, c'est lui qui va ramasser le pactole. Mais tu dis,
ce n'est pas vrai.
Mais non, écoute, c'est du hasard, là, c'est ça.
Ben, c'est parce que chaque joueur a les mêmes chances de gagner que le joueur avant lui. Puis à chaque coup que tu joues, tu as les mêmes chances de gagner que le coup précédent. C'est une erreur de penser que vraiment, des fois, oui, ça va arriver qu'on dirait qu'elle va payer à ce moment-là, puis pouf, ça y est, mais c'est vraiment de la chance, là. C'est vraiment aucune chance de plus qui se produit selon les jeux précédents. Vos chances de gagner des lots différents, par contre, varient selon la taille du lot. Hein. Les probabilités moyennes du gros lot dans la plupart des loteries jeux vidéo, là, ça varie sur une dizaine de milliers sur des millions. Pour les gros lots. Mais les probabilités de gagner un petit lot sont très, très, très fortes, là.
Ouais.
Et la remise des lots, ce qui est arrivé, c'est que chaque loterie vidéo, maintenant, remet 90% de ce qui rentre. Alors, c'est là que ça devient payant. Parce que dans le temps là, que c'était illégal, au moment de l'entrée, par exemple, de l'Auto-Québec dans le domaine,
parce que c'est ça, l'Auto-Québec a été mis au monde ou a été créé justement parce qu'il y avait le crime organisé qui avait la mainmise sur les jeux de hasard. Puis on a dit, pour légaliser ça, là, pour avoir un certain contrôle, on va créer une société d'État. Donc, c'est pour ça que l'Auto-Québec, entre autres, est né, c'est ça. Hein?
Oui, puis j'ai lu un article sur quelqu'un qui met la faute de la plus grande dépendance sur l'Auto-Québec, l'Auto-Atlantique et tout ça, sens qu'ils ont monté la remise à 90% pour que ça paye plus. Parce qu'avant, par exemple, je prends l'exemple du Québec, avant que l'Auto-Québec a été autorisé à opérer des loteries vidéo, il y avait à peu près 30 000 machines illégales en exploitation au Québec. Puis personne ne parlait trop de joueurs à problème, là. Mais dans ce temps-là, les machines remettaient seulement 50 à 60%. Ça empêchait de créer une si grande dépendance. Aujourd'hui, le fait que la remise va jusqu'à 90% de tout l'argent qui rentre dans la machine ressort en gain, c'est là que les gens ont non seulement cette impression, mais parfois ils en font de l'argent. Mais c'est là que ça donne l'impression qu'on peut pratiquement tout remettre, puis arriver quasiment kiff-kiff, mais au bout de la ligne, toujours perdant sur le long terme. T'sais, c'est ça qui arrive, puis on met la faute un peu là-dessus. Alors, avant que les compagnies de l'Auto-Québec soient autorisées, justement, il y avait 30 000 machines illégales. Au moment de l'entrée de l'Auto-Québec dans le domaine, ils ont déployé à moitié moins de machines, à peu près 13 000. Puis là, les problèmes sont apparus. Les problèmes vraiment de dépendance qu'on a entendu parler. C'est parce que contrairement aux machines illégales, justement, premièrement, ça inspire la confiance des joueurs, que ça soit fait par le gouvernement ou, mettons, une société d'État. Hein? Mm-hmm. Et ça pourrait expliquer une différence. Mais contrairement à ce qui se dit, les appareils en soi et leur nombre n'auraient que très peu à voir avec l'augmentation du nombre de joueurs à problème. C'est vraiment le fait que ça paye plus que les machines illégales payaient dans le temps, à 50-60%. Puis le nombre de machines, donc, n'a pas à voir. Le pourcentage de retour, oui. Puis les jeux qu'on retrouve sur les appareils de loterie vidéo sont des jeux de hasard pur. Les jeux de hasard pur, ça peut poser problème seulement si le pourcentage de retour de lot est élevé. Alors, faites très attention parce que en sachant aussi que ça vous redonne 90%, c'est sûr qu'on peut se dire « OK, j'ai gagné un montant, je pars avec, j'arrête de jouer. Ouais. » Arrête de jouer pour toute ta vie. Est-ce que tu arrêtes vraiment de jouer pour toute ta vie? Parce qu'à un moment donné, même si c'est 2 ans plus tard, qu'on restait, à un moment donné, à force, tu perds toujours. Là, ça remet juste 90% de tout l'argent qui rentre.
Exact.
Alors voilà, des caractéristiques particulières des machines à loterie vidéo qui font aussi que ça rend dépendant. Il y a la rapidité, ça va vite. Les jeux vont vite, ça tourne vite. Il y a le quasi-gain. Souvent, ça te fait croire que tu as presque gagné quelque chose. Fait que tu dis, je vais l'avoir la prochaine fois. Alors, c'est ça. Alors, c'est des machines qui sont assez dangereuses pour le jeu compulsif, je vous dirais. Ceux-là, ça serait les pires. Mais si vous avez des problèmes de jeu, ben n'hésitez pas. Il y a plusieurs numéros de téléphone que vous pouvez facilement trouver pour avoir de l'aide avec des spécialistes qui vont vous donner un peu ce que j'ai dit aujourd'hui, mais ils vont peut-être pouvoir aller plus loin avec vous et trouver des solutions si ça vous a causé des problèmes.
On va clore l'émission dans un instant avec notre quatrième et dernier bloc et on va s'attaquer au tarot de Marseille. Restez avec nous autres, on revient après la pause.
Peut contenir des infos.
On entre dans notre dernière ligne droite et nous allons la consacrer cette fois-ci à parler du... Tu nous avais parlé de ça, ou en fait, tu avais effleuré un peu le sujet quand on avait parlé des cartes, des jeux de cartes. Mais là, on va aller carrément dans ce sujet-là en particulier, c'est-à-dire le tarot de Marseille.
Oui, puis ça, c'est un jeu que j'ai trouvé fascinant. Je m'intéresse à toutes sortes de choses. Puis il y a à peu près une vingtaine d'années, je m'étais intéressé à ça parce que j'avais vu un... C'est une copine que j'avais qui m'avait montré un jeu de tarot qui s'appelait Zen. C'est un tarot Zen. Puis là, c'était des belles images, des belles cartes, puis on s'avait fait beaucoup de plaisir avec ça à piger des cartes pour voir comment allait notre relation ou, tu sais, comprendre des choses sur la journée. Puis on avait beaucoup de plaisir. Puis là, j'ai fait, oui, mais il y a un tarot qui existe que j'ai déjà vu, là, me semble, c'est plus populaire que celui-là, là, tu sais. Le tarot de Marseille, qui est vraiment répandu avec des images peut-être un peu moins belles, mais qui, attention, sont beaucoup plus significatives. Okay. Si vous voulez un bon jeu de tarot qui est fait avec des lois, là, comme des normes incroyables, le tarot de Marseille est comme la perfection de l'art. Là. C'est vraiment le jeu de tarot. Alors, les autres jeux de tarot, ben, ça fait de l'argent, ça se vend bien, ça fait des beaux cadeaux, mais c'est pas aussi intense la façon que les cartes sont conçues pour les interpréter. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est du tarot de Marseille dont on parle, parce que des cartes de tarot, bon, c'est un type de carte à jouer qui est apparu en Italie au 15e siècle. Le mot tarocchi puis le mot français tarot sont mentionnés pour la première fois au début du 16e siècle. Alors, avant ça, c'était, oui, des cartes existaient, oui, ces dessins-là avaient été déjà un peu vus, mais pour être un vrai tarot, là, c'est dans ces années-là. Les plus anciennes cartes de tarot qui sont connues aujourd'hui ont été peintes pour la famille Visconti, une famille italienne qui a régné sur la seigneurie du bas Moyen-Âge jusqu'au début de la Renaissance, de 1277 à 1447. C'est la famille Visconti qui régnait. Puis le tarot de Marseille, c'est un ensemble de cartes à enseigne ou couleur, on peut dire couleur, mais c'est parce que tantôt, je vais parler des véritables couleurs, là, mais quand je parle de couleur, en voulant dire enseigne comme cœur, carreau, trèfle, pique aux cartes, là, c'est plutôt coupes, bâtons, deniers dont je parle. Là.
OK.
Alors, ce qu'ils ont de particulier, bien, le tarot de Marseille et les jeux de tarot, c'est qu'ils ont une cinquième suite. Il n'y a pas juste les quatre signes, il y a une cinquième suite de 22 cartes qu'on appelle les arcanes majeures. C'est ça qui fait la différence d'un jeu de tarot et un jeu de cartes normal. Parce que sinon, ça se ressemble. Le reste, c'est très, très à l'exception du cavalier. On y reviendra. Mais depuis la fin du 18e siècle, il est associé à la taromancie, la cartomancie, le tarot de Marseille. Il a été popularisé à partir de 1930 par Paul Marteau, qui a choisi d'intituler son tarot. Lui, c'est un tarot pour prédire l'avenir, là, ou faire de la cartomancie, puis il l'a appelé « Ancien tarot de Marseille ». Alors, c'est là que ça a commencé à s'appeler comme ça. Puis, le tarot dit de Besançon, ben c'est une variante du tarot de Marseille qui existe où il y a deux cartes seulement dans les arcanes majeures, la papesse, le numéro 2, et le pape, numéro 5, qui ont été remplacées par Junon et Jupiter. Alors, tu vois que c'est peut-être parce que, bon, on trouvait ça blasphématoire, là, un pape, ou peut-être que, bon, on voulait enlever toutes les références à la papauté. Donc, sa production qui a été faite à Besançon, bien, ça fait qu'on lui a donné le nom de tarot de Besançon au 19e siècle. C'est tout au long du 19e siècle qui a été fait celui-là, mais sensiblement le même que le tarot de Marseille. Là, les tarots de la province italienne de Lombardie, c'est eux qui sont considérés aujourd'hui comme étant les prototypes des tarots plus récents. C'est tout basé là-dessus. Tous les jeux de cartes primitifs européens seraient eux-mêmes issus ou inspirés par les jeux de cartes orientaux des Mamelouks. Mais ça remonte à quand je te parlais, je les avais mentionnés, eux, quand je parlais du jeu de cartes traditionnel, parce que ça vient de là. Hein, donc, okay. Tout le jeu de tarot vient de beaucoup plus loin, en fait, mais c'était pas encore bien fait comme ça, de tarot, puis monté avec les cartes qu'on connaît aujourd'hui. Il y a un tarot de Marseille, fait à Marseille par Philippe Vachier. Il s'appelle comme ça, là, c'est pas pour faire une date.
Non, c'est correct, c'est bon.
Il est daté, ce jeu-là, sur le 2 de denier, il y a une date, 1639. Puis c'est okay. Un jeu complet de 78 cartes qui est en très bon état de conservation. Et il est apparu l'année dernière, en 2023, sur le marché de l'art. Il a été vendu aux enchères en mars 2023 à l'hôtel Drouot par la maison Gigelot et Associés pour 65 000 euros.
Ah, juste ça?
Ben, c'est le prix record, ça, pour un jeu de cartes.
Ben non, mais c'est quand même quelque chose qui date des années 1600, là, comme tu as dit tantôt, là.
Oui, mais qui a été vendu en 2023, là.
Ouais, mais ouais. OK.
65 000 euros, c'est le prix record pour un jeu de cartes. Puis c'est le plus ancien jeu de tarot de ce type-là qui est connu aujourd'hui. Mais les cartes de tarot sont appelées lames ou arcanes majeures et mineures par les ésotéristes et les occultistes à partir de 1863 seulement. C'est là qu'on a trouvé le nom, là, arcane ou lame. Et les atouts aussi, les arcanes majeures, ben, il y en a 22 numérotés de 1 à 21 en chiffres romains, à la façon du Moyen-Âge. Puis il y a un seul atout qui n'est pas numéroté, c'est le mât ou le fou ou le fol qu'on peut appeler. Seulement, il est numéroté dans les tarots belges de Rouen et de Bruxelles. Il porte le numéro 22, mais dans la plupart des tarots, il n'est pas numéroté. Quoiqu'il y a des ésotéristes qui l'ont souvent numéroté 22 ou 0. Mais il y a une carte non numérotée, puis les 21 autres sont numérotées. On peut voir un peu dans cette carte-là le Joker du jeu de cartes standard. C'est un peu le mât dans le tarot. Le fol des tarots à travers l'anglais, on voit de fool, puis il s'appelle fol aussi. Mais c'est comme une survivance de cette carte-là, le Joker. Et la structure se fonde donc sur les quatre enseignes. Anciennement, c'était des peintures latines. Donc, bâton, coupe, denier, épée. Pour chaque, on trouve 10 cartes numérales de l'as au 10 et 4 honneurs, les têtes ou les figures. Alors, la seule différence avec le jeu de cartes traditionnel, c'est qu'on rajoute un cavalier. Il y a valet, reine, roi, mais dans le jeu de tarot, il y a le cavalier aussi. Donc, ça fait 14 cartes par enseigne pour un total de 56 cartes au lieu de 52. Et Corinne Morel a sorti des livres. Moi, quand je m'étais intéressé à ça, comme je te disais, il y a une vingtaine d'années, je voulais savoir qu'est-ce que c'est ça, le tarot de Marseille, d'où ça vient, puis comment on interprète, comment on peut jouer avec ça. J'avais acheté, moi, 3 volumes d'une autrice qui s'appelle Corinne Morel. Il y en a un qui parle des arcanes mineurs, un des arcanes majeurs, puis un dernier volume sur la pratique divinatoire. Vraiment intéressant, ça. Vous pouvez procurer ces livres-là, mais il y en a plein, des livres qui parlent de tarot. Mais celui-là, je l'avais trouvé vraiment intéressant parce que, non seulement ça explique comme un peu la divination, comme on fait avec toutes les cartes, mais il explique que dans le tarot de Marseille, les couleurs sont vraiment importantes. Il y a 7 couleurs dans les cartes. Vous verrez ça, là, des cartes, on y retrouve le bleu, le rouge, le jaune, le vert, la couleur chair, couleur peau, le noir et le blanc. Et puis là, toutes ces couleurs-là, ils sont en proportions différentes sur chacune des cartes. Alors, si tu piges, mettons, un 4 de denier, bien, en plus d'avoir une signification pour le 4, une signification pour le denier, bien là, il faut que tu ailles chercher les couleurs dominantes dans la carte. Est-ce qu'il y a un peu de bleu? Est-ce qu'il y a un peu de vert? Puis tu as des deniers qui vont en avoir et d'autres qui n'auront pas. Et tout ça est à la fine pointe bien placé pour les interprétations qu'on peut en faire. Alors, c'est vraiment intéressant l'affaire des couleurs. Alors, si tu permets, c'est de ça plutôt que je vais parler que des autres façons d'interpréter. Ça, si ça vous intéresse, allez chercher dans les livres et tout ça. Mais les couleurs, je vais vous en dire un petit mot là-dessus. C'est important, ça aide à interpréter un tirage et surtout si la couleur est dominante. Tu sais, par exemple, quelqu'un pige des cartes de tarot, tu as une signification est donnée, mais il y a beaucoup, beaucoup de bleu. Par exemple, il y a 4 cartes là, de pigé, puis il y a beaucoup de bleu dans les 4 cartes. Bien là, c'est clair que le bleu va être la dominance et on va y aller avec une interprétation qui tient compte de ça.
Mais c'est une interprétation arbitraire ou c'est une interprétation, je veux dire, dans le sens où c'est nous autres qui disons qu'il y a beaucoup de bleu ou c'est très, très, très évident qu'il y a beaucoup de bleu?
C'est très évident. Tu sais, par exemple, tu piges une carte que la toge du personnage est tout en bleu.
OK.
Puis tandis que tu en as d'autres, que la toge est tout en rouge.
OK, je comprends.
Puis tu as vraiment des prédominances. Des fois, il y a un petit bout de gazon vert par terre, mais des fois, le petit bout de gazon par terre est jaune. Et ça change complètement la signification de la carte. Alors, ça devient vraiment intéressant.
Donc, c'est pas arbitraire ou subjectif. Là. C'est vraiment là, quelque chose de. C'est vraiment quelque chose qui est évident. Oui. C'est flagrant, ça saute aux yeux, c'est du bleu. OK.
C'est ça. Et en plus, ça a été mis là pour une raison.
Okay.
C'est un tarot vraiment poussé, puis ça s'est fait avec de nombreuses études sur des siècles, là, toutes ces affaires-là, pour construire ces cartes-là, vraiment de la bonne chose. Puis on ne connaît pas l'origine exacte, hein? Il y a toutes sortes de choses. Mais on peut voir la couleur chair est là-dedans, dans le tarot, puis ça représente vraiment l'humain. Hein? Puis c'est comme si la couleur chair se situe au milieu d'une grande pyramide, okay, qui part de la terre et qui va jusqu'au ciel.
Okay.
Alors, on part de la terre, ensuite on a le noir, le rouge, le vert. Ensuite, on arrive au plan humain, et ensuite, on a bleu, jaune, blanc, et on arrive au ciel, le plan divin, dans cette espèce de petit tableau. Alors, c'est comme si chaque couleur représente une étape dans le cheminement de l'humain, du plan matériel jusqu'au plan divin. C'est vraiment intense, hein? Alors là, si on regarde, par exemple, la couleur blanc, qui est l'élément air, la pureté, la virginité, c'est la couleur de la neige immaculée. Alors, ça symbolise la pureté, virginité, tout ça, délicatesse aussi, fragilité, parce que de la neige, c'est facile à souiller. Alors, le blanc, c'est aussi la couleur de la feuille de papier qui attend l'écriture. Hein. Pleine de promesses, ça respire la liberté. Le jaune, c'est l'élément air aussi, divin, travail, métamorphose, et surtout la couleur du travail, et sur le plan humain, c'est la couleur de la spiritualité, alors le travail de l'homme sur sa conscience pour s'élever jusqu'au plan divin. Le bleu, parce que là, j'y vais en descendant à partir du ciel. Le bleu, c'est l'élément eau, spiritualité, connaissance, passivité. C'est la couleur de l'extérieur du ciel, des océans, mais aussi des profondeurs, des grands espaces. Alors, symbole de l'infini, intemporalité. Le temps n'existe plus dans cette histoire de bleu. C'est aussi la passivité, la féminité. Alors, tout ça est à tenir en compte. Ensuite, on arrive avec la couleur peau. Bien là, c'est vraiment l'élémentaire, la conscience, l'humain, l'apprentissage. C'est tout ce qui donne le caractère humain à la chose. Il est question aussi d'une intelligence pratique instinctive acquise par l'expérience, adaptation, opportunisme et tout ça. La couleur chair évoque des faiblesses humaines aussi, les plaisirs charnels, toutes ces petites choses-là. Alors, quand tu as un bonhomme sur la carte qui a vraiment beaucoup de couleur peau, eh bien, il peut avoir ces faiblesses-là. Et il y a aussi la sincérité qui est là-dedans, comme la vulnérabilité et l'humilité. Ensuite, on a le vert. Élémentaire, espoir, vitalité, résistance, ça c'est vraiment régénération, une couleur de force, mais de force tranquille. Et elle symbolise la vie, l'existence, la croissance, mais aussi l'espoir. Ensuite, le rouge, élément feu, énergie, action, masculin. Couleur de l'intérieur, comme le sang, désir, le rouge symbolise surtout l'action, énergie, vitalité, une représentation du plan matériel de ce qui est concret. Ensuite, le noir. Bien, c'est l'élémentaire, transmutation, potentiel, essentiel. Il est très mystérieux, le noir. Et il faut noter que dans le tarot, le noir ne s'oppose pas au blanc. Le noir, c'est, il fait promesse pour ceux qui bravent l'obscurité. Une couleur aussi fertile, la couleur du terreau, où ça prend racine, où ça prend fin. C'est le symbole de la transmutation, de la réincarnation. Parce qu'avant de renaître, il faut accepter de mourir, se débarrasser du superflu et ne garder que l'essentiel, son âme. Alors, tout ça fait partie du tarot de Marseille, mais en gros... Surtout les couleurs que j'avais trouvées fascinantes dans les livres de Corinne Morel. Alors, si ça vous intéresse, c'est d'aller là-dedans. Mais si vous voulez tirer aux cartes des gens, là, le meilleur jeu pour le faire, je crois, là, c'est le tarot de Marseille.
C'est le tarot de Marseille.
C'est pas comme les autres petits tarots que vous allez trouver partout. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur celui-là, puis ça le rend plus pertinent.
On va se coucher un peu moins niaiseux, comme on dit. Je ne veux pas dire qu'on va se lever plus intelligent demain, là, comme je dis souvent. Mais...
on s'en rappellera peut-être plus non plus.
Non, mais il y a beaucoup de lectures à faire aussi sur le tarot de Marseille, hein, parce que c'est certainement, vraiment, comme tu le disais, un des plus populaires. Avant de clore l'émission, je veux juste vous dire que la semaine prochaine, ça va être une émission, on va faire un petit spécial un peu Noël. Hein. Tu vas parler de tradition puis de sapin, toi, c'est ça?
Ou de l'histoire? Oui, puis peut-être parler aussi des Noëls d'autrefois. Hein. Ça a tellement changé.
OK. Moi, je vais parler la semaine prochaine. Je voulais en parler cette semaine, mais on a décidé d'un commun accord qu'on allait laisser les jeux de hasard prendre tout le plancher là, pour le troisième bloc tantôt. Et puis, j'aurai l'occasion donc de vous pousser quelques traditions insolites à travers le monde pour célébrer Noël. On va faire un récapitulatif la semaine prochaine de nos quelques meilleures entrevues de la saison automnale. Et je tiens à vous annoncer d'ores et déjà, mesdames, messieurs, que nous serons de retour en janvier, mais... pour une dernière saison. Toute bonne chose a une fin. Peut contenir des infos, va s'étirer pour 2025 du mois de janvier jusqu'à la fin de la programmation, on va dire hiver-printemps, là, jusqu'au mois de juin ou à peu près. Et puis, ce sera terminé. C'est une émission qui a quand même duré depuis 2022, mais il y a un vieux dicton qui dit que toute bonne chose a une fin et puis ce sera la dernière saison. Mais promettez-nous que vous allez être là la semaine prochaine. Tu vas être là, Sébastien?
Absolument, avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme.
Et on va parler de Noël, entre autres choses. Salut, passez une bonne semaine.